t'aurais raison. Mais qui a dit que nous avions pour but de ne vous faire entendre que des personnes représentatives? Et représentatives de quoi? De la majorité? Alors certainement pas pour ce qui concerne Sakai Shonishi, mais représentatif d'une lutte persistante des travailleurs dans ce pays, des ouvriers dans ce pays, des salariés dans ce pays. Il y a une longue histoire des luttes sociales au Japon qui se passe très souvent sous silence et qui ne figure même pas dans les mémoires collectives occidentales comme japonaises. Toyota, c'est le Japon. Et le Japon, c'est Toyota. Et Toyota, c'était pas seulement l'excellence, la robustesse, la qualité de ses voitures qui faisaient l'unanimité, l'admiration planétaire, l'accomplissement sublime du capitalisme industriel et nippon. C'était aussi le social, un modèle, des emplois à vie avec des logements, des garanties, une formation, un encadrement. Excellence, Toyota. Toyota est fantastique. Alors on le voit, le côté social n'est plus ce qu'il était, et on a même vu que ça n'a jamais été le cas finalement, ce paradis-là. En lisant le livre de Satoshi Kamata sur Toyota, l'usine du désespoir, écrit au début des années 70, on voit que les précaires à l'époque s'appelaient les temporaires, mais c'était bel et bien la même histoire. Alors pourquoi cette image si flatteuse? Eh bien, c'est la pub, camarades. La com, Toyota est un des plus gros annonceurs au monde et bien sûr le premier annonceur au Japon. La pub fait taire. Jadis, dans les pays soviétiques, au-dessus des immeubles, on pouvait admirer de grandes banderoles de propagande avec au-dessus le portrait du leader suprême et bien aimé sur 20 mètres de haut. Aujourd'hui, à la place, c'est Toyota. Oh, bien sûr, c'est pas la même idéologie. Et puis, malgré tout, Toyota a moins de morts au compteur que le sémillant Joseph Staline, certes. Mais un peu quand même, et pas seulement la pédale de frein, mais ceux qui ont fixé la pédale de frein, c'est-à-dire les pauvres ouvriers. Et d'ailleurs pas forcément les pauvres ouvriers. Un robot qui se dérègle, un robot bien fait, si parfait, qu'il commence à éprouver des sensations, des sentiments, par exemple au printemps, en voyant les cerisiers en fleurs partout, ces fleurs éphémères comme la vie, eh bien le robot ému rêve, s'arrête et laisse passer une pièce. Il oublie de visser une vis et voilà comment Monsieur Toyota se retrouve avec 9 millions de bagnoles sur les bras. À la fin de son livre, Satoshi Kamata observe des robots qui font le boulot. Il observe le mouvement des robots. Et de l'autre côté de l'atelier, il regarde des ouvriers affairés. Et il comprend quelque chose, Kamata. Il comprend que ce n'est plus le robot qui imite les gestes de l'homme, c'est le contraire. C'est l'homme qui, peu à peu, s'est mis à copier le robot. Travailler chez Toyota, de l'emploi à vie, à la course, à la survie.
Nouvelle Toyota Auris. Osez la différence hybride. Toyota, toujours mieux.
Toujours plus loin.
Là, on a eu du mal, hein. On a eu du mal. À trouver quelqu'un qui ose parler en son nom, sans masque et sans détour, de ce qui se passe chez Toyota. Et c'est quelqu'un qui a passé 40 ans de sa vie chez Toyota et qui est juste retraité il y a très peu de temps. Il a passé 40 ans dans cette usine. Et il est toujours resté à la chaîne. 40 ans, toujours à la chaîne. Alors que généralement, bien sûr, peu à peu, on monte de grade en grade, etc. Mais voilà, ce que voulait faire Sakai, c'est créer un syndicat pour lutter contre les conditions de travail, pour lutter comme un syndicat doit lutter. Et c'est à cause de sa volonté de lutter, d'améliorer les conditions de travail, qu'il a toujours été assigné à la chaîne. Aujourd'hui, il est retraité, mais il continue le combat et il va nous raconter
ce qui s'est passé